Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La Maasai Blanche est un récit autobiographique de Corinne Hoffmann, publié en 1998 en allemand, puis traduit dans plusieurs langues. Le livre relate son séjour au Kenya et son mariage avec un guerrier Samburu, souvent associé dans la réception populaire à l'univers Maasai. À mi-chemin entre récits de voyage, témoignages intimes et chroniques d'immersion culturelle, l'ouvrage décrit la rupture radicale entre la vie confortable de la narratrice en Suisse et les conditions difficiles d'une existence dans la brousse kényane. Son intérêt principal tient à la confrontation directe entre deux systèmes de valeurs, deux rapports au couple, à la famille, à la survie matérielle et à la place des femmes. Le texte n'a pas vocation à proposer une analyse anthropologique savante. Il mise plutôt sur l'expérience vécue, la narration à la première personne et l'accumulation d'épreuves concrètes pour faire sentir au lecteur ce que signifie changer totalement de monde. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un récit autobiographique centré sur le choc entre l'Europe et le Kenya rural. Le livre doit d'abord être lu comme un témoignage personnel. Corinne Hoffmann y raconte comment un simple voyage touristique se transforme en bascule existentielle lorsqu'elle décide de quitter la Suisse pour rejoindre un homme rencontré au Kenya. Cette structure donne au récit une force particulière, car tout passe par son regard, ses émotions et ses décisions successives. Le lecteur ne reçoit pas un panorama neutre du pays, mais l'expérience d'une femme confrontée à un environnement qu'elle ne maîtrise ni culturellement ni matériellement. Cela explique le ton souvent direct, factuel et centré sur les événements concrets. L'intérêt du livre réside dans cette immersion progressive dans un quotidien très éloigné des repères européens, transports difficiles, isolement, climat, maladies, dépendance économique et fragilité des relations sociales. En ce sens, le récit fonctionne comme une expérience de décentrement. Il met en scène non seulement un amour, mais aussi la perte de tous les automatismes qui organisent une vie occidentale ordinaire. Deuxièmement, l'amour comme moteur, mais aussi comme zone d'aveuglement, l'un des axes majeurs du livre est la puissance du coup de foudre. Corinne Hoffmann prend une décision extrême à partir d'une attraction immédiate pour Elketinga, ce qui donne au récit une dimension romanesque et parfois déroutante. Le texte explore ainsi la manière dont le désir peut faire passer au second plan les considérations de prudence, de cohérence sociale et même de communication élémentaire. C'est précisément ce décalage qui nourrit une grande partie de la tension narrative. La narratrice s'engage avec intensité dans une relation qu'elle comprend encore mal. Le livre montre aussi que l'amour ne suffit pas à stabiliser une union lorsque les partenaires n'ont ni les mêmes codes, ni les mêmes attentes, ni la même vision du couple. Cette fragilité est d'autant plus forte que la relation se construit dans l'urgence, sans véritable préparation interculturelle. Le récit ne glorifie donc pas simplement la passion. Il en expose aussi les limites, en montrant comment un attachement sincère peut se heurter aux réalités quotidiennes et aux incompatibilités profondes. Troisièmement, une immersion dans les codes Samburu et la place des femmes. Le livre offre surtout un aperçu vivant des normes sociales qui structurent la vie dans la communauté de Elketinga. Le mariage, la fidélité, la polygamie, les rôles domestiques et l'autorité masculine y apparaissent comme des réalités auxquelles la narratrice doit se confronter sans préparation suffisante. Ce point est essentiel, car le récit n'est pas seulement l'histoire d'un couple, mais aussi celle d'un désaccord entre deux conceptions de la vie commune. Corinne Hoffmann doit composer avec des attentes collectives qui diffèrent profondément des siennes, notamment sur la liberté individuelle, la jalousie, la sexualité et la légitimité des choix féminins. L'intérêt du livre est de donner à voir, de l'intérieur, la difficulté d'adaptation à une culture où la position de la femme est très encadrée. Même si le regard de l'auteur reste subjectif, il éclaire de façon concrète la distance entre l'autonomie occidentale et un système social plus traditionnel. Le lecteur comprend alors que l'épreuve n'est pas seulement géographique, elle est aussi symbolique. Car il faut accepter ou refuser des règles qui redéfinissent entièrement sa place. Quatrièmement, la survie quotidienne face à la maladie, à la pauvreté et à l'isolement. Un autre aspect central du livre est la description des conditions matérielles de vie au Kenya rural. Le récit insiste sur les difficultés très concrètes, manque d'infrastructures, pauvreté, soins médicaux limités, maladies tropicales et fatigue permanente. Cette dimension donne au témoignage une portée presque documentaire, car elle rappelle que l'installation dans la brousse ne relève pas d'un simple changement de décor, mais d'une adaptation à des contraintes sévères. Corinne Hoffmann raconte aussi ses tentatives pour créer une activité commerciale, ce qui montre qu'elle ne se contente pas d'observer, elle cherche à s'insérer économiquement dans son nouvel environnement, mais ses initiatives soulignent aussi les obstacles liés à l'éloignement, à l'isolement et aux écarts de ressources entre elle et la population locale. Le livre vaut donc autant comme récit d'abandon amoureux que comme chronique de survie. Il met en lumière la façon dont le quotidien, dans un contexte fragile, peut user les corps, transformer les relations et faire apparaître l'aventure comme une lutte continue, plutôt que comme un rêve exotique. En dernier lieu, un témoignage discuté pour sa sincérité, sa simplicité et ses limites. La réception du livre est souvent partagée et c'est aussi ce qui le rend intéressant. Beaucoup de lecteurs apprécient la sincérité du témoignage, la lisibilité du style et la force de l'immersion. D'autres, au contraire, reprochent à l'auteur un regard parfois naïf, une faible distance critique et une tendance à dramatiser ou à simplifier les enjeux culturels. Cette ambivalence fait partie intégrante de l'objet littéraire. La Massaille Blanche n'est pas un essai d'anthropologie, ni un roman psychologique sophistiqué. C'est un récit personnel qui assume sa subjectivité. Ses limites formelles, notamment un style souvent direct et très descriptif, contribuent paradoxalement à son efficacité. Le lecteur a le sentiment d'être au plus près des faits. En même temps, le livre soulève des questions plus larges sur la manière de raconter l'autre culture, sur le risque d'idéalisation réciproque et sur la frontière entre ouverture sincère et appropriation fantasmatique. C'est cette combinaison entre force narrative et fragilité du point de vue qui distingue l'ouvrage de nombreux récits de voyage plus conventionnels. En conclusion, La Massaille Blanche s'adresse d'abord aux lecteurs intéressés par les récits de vie, les histoires d'amour interculturelles et les témoignages d'immersion en Afrique de l'Est. Il peut aussi intéresser ceux qui veulent comprendre, à travers une expérience concrète, ce que signifie vivre dans un environnement social et matériel radicalement différent du sien. Son principal apport n'est pas théorique, mais expérientiel. Il fait ressentir les tensions entre désir personnel, choc des valeurs, adaptation quotidienne et de solitude. Pour un lecteur curieux des relations entre Europe et Afrique, il offre un point de vue direct, parfois dérangeant, toujours révélateur. Ce livre se distingue des récits de voyage plus classiques par son engagement total. Il ne se contente pas de décrire un pays, il raconte le basculement d'une existence entière. Il se démarque aussi des romans sentimentaux par la dureté de son cadre et la place importante donnée aux contraintes matérielles, à la maladie et aux conflits conjugaux. C'est précisément cette alliance entre passion, survie et décentrement culturel qui explique sa persistance comme témoignage marquant dans son genre. Si vous souhaitez soutenir Corinne Hoffmann, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !